Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Il est 18h, tout de suite le point sur l'actualité nationale en français. Bonsoir, voici nos titres. Le rapport annuel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a été publié hier. Il déclare que 69 millions d'enfants dans le monde de moins de 5 ans vont mourir dans la pauvreté d'ici 2030. Sitting ce matin du comité des admis du concours de recrutement à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique, concours annulé depuis le 8 avril. Le comité proteste jusque-là l'annulation du dit concours. Vous entendrez un membre de ce comité et la réponse du ministre de la Santé, Kalla Moutari. On en parle également dans la partie magazine de ce journal. La difficulté pour les tailleurs de respecter les rendez-vous pour la livraison des habits à 4 jours de la fête de Ramadan. Bienvenue à tous. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a publié hier son rapport annuel. Selon ce rapport, 69 millions d'enfants dans le monde de moins de 5 ans vont mourir dans la pauvreté d'ici 2030. Pauvreté, analphabétisme et décès prématurés. Selon l'UNICEF, c'est ce qui attend les enfants les plus défavorisés de la planète. Au micro de Adama Dawaki, Viviane Van Startegen, représentante de l'UNICEF à Niamey, analyse le cas du Niger où la situation reste très préoccupante même si des résultats positifs ont été enregistrés.
Le Niger fait partie de ce diagnostic. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, on peut dire que la moitié de ces 69 millions dont vous venez de parler, d'enfants qui meurent avant leur cinquième anniversaire, la moitié de ces enfants sont des enfants qui résident en Afrique subsaharienne. Donc évidemment, il y a également des enfants nigériens dans ce nombre. Néanmoins, comme certains autres pays de la région africaine, le Niger, qui avait une mortalité chez les moins de 5 ans très élevée, de plus de 200, comme les autres pays qui avaient ce type de mortalité, c'est l'Éthiopie, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, le Niger a fait énormément d'efforts et a réussi à atteindre l'objectif des OMD, des objectifs du millénaire, en ce qui concerne la mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans.
Viviane Van Startegen, représentante de l'UNICEF à Niamey. L'intégralité de cet entretien avec Viviane Van Startegen, représentante de l'UNICEF Niger, est à retrouver dans l'émission Forum avec Alassane Kouzi à partir de 18h15, juste après ce journal. Les admis au concours du recrutement à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique annulé le 8 avril dernier pour des raisons de fraude ont organisé un sitting ce matin au ministère de la Santé. Il s'agissait pour eux de réaffirmer leur refus par rapport à l'organisation d'un nouveau concours et de réitérer leur engagement à poursuivre le combat. Machalele Sabiou, membre du comité des admis du dit concours.
Nous sommes victimes d'une injustice. Et l'injustice, c'est quoi? On s'appesantit sur des raisons mal fondées. On s'appesantit sur certains caractères frauduleux de ce concours-là pour légitimer l'annulation de ce concours-là. Nous, on s'est dit, la meilleure manière pour faire évacuer ces irrégularités demeure plus que jamais leur correction. Mais on ne peut pas annuler un concours après tant de sacrifices des ayants droit, après tant des efforts qui ont été fournis pour arracher de notre propre sieur ce concours-là, ont bien juste quelques jours après la publication des résultats pour remettre en cause tous nos efforts. Les auteurs de cette abrogation n'ont pas la moindre idée du sacrifice que nous avons consenti. Donc nous fustigeons ce comportement. Nous réitérons notre engagement à travers notre comité jusqu'au boutiste, en tout cas de continuer inlassablement cette lutte et faire aboutir ces revendications.
Répondant à leurs préoccupations, le ministre de la Santé publique s'est déclaré solidaire à ceux qui ont pris la décision d'annuler ce concours. Nous écoutons le ministre Kalla Moutari.
On fait un concours. Nous voulons vérifier La fiabilité de la correction, on n'a pas de copie. On veut bien racheter certains d'entre vous parce qu'il y en a qui sont admis honnêtement. Mais on cherche les copies, on n'en a pas. On cherche des notes, on a interverti les notes parce que certains d'entre vous ont acheté leur admission. Parce que certains de nos cadres ont accepté de vendre les admissions. Vous nous envoyez à la santé, ceux qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. Ils vont aller servir dans la santé. On a dit que cette responsabilité, on ne la prendra pas. Ce n'est pas moi qui annule le concours, mais je suis solidaire de ceux qui l'ont annulé. Parce que n'ira à la santé que des gens en toute bonne foi, nous avons jugé aptes à aller servir à la santé. Quand il y a un doute, on ne s'engage pas. C'est clair. Quand il y a un doute que la personne que nous allons amener à la santé peut attenter à la vie de quelqu'un, on ne va pas l'amener.
Dossier préparé par Ashmana Shina. L'assainissement des différentes villes constitue un facteur de développement d'un pays. Au Niger, cette question en préoccupe plus d'un. Avec le début de la saison des pluies, qu'en est-il exactement? Mamman Moussa, hydraulicien au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, répond aux questions de Nafissa Adamo Serfo.
Le volet de l'assainissement quand même progresse. Et quand on compare les réalisations rien que par rapport à la fin de la défécation à l'air libre, quand vous comparez les résultats de l'année passée et ceux de l'année 2015, vous verrez que c'est vraiment, il y a un net progrès. Ce progrès est dû certainement à l'importance des investissements dans le secteur, mais également à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la SOFAB, donc la stratégie d'hygiène et de l'assainissement de base au niveau du ministère qui a été approuvé en 2014 et qui a été mise en œuvre en 2015. Vous savez, le grand problème des villes du Niger réside d'abord dans le plan de lotissement même de ces villes. Normalement, toute parcelle ou tout lotissement doit être viabilisé. Et la viabilisation, ce n'est pas tout simplement de faire sortir les ruelles. Non, non, non. C'est également de prévoir des réseaux d'assainissement. De l'autre côté, il y a le changement de comportement de la population qui ne suit pas. Et je pense que c'est la plus grosse des tâches à laquelle les dirigeants, des responsables, en tout cas, communaux doivent s'atteler.
Propos recueillis par Nafissa Adamo Serfo. La ville de Filingué est confrontée à un sérieux problème d'écoulement des eaux de pluie. L'inondation enregistrée le 26 juin dernier en est une illustration. Suite à ce problème, une rencontre a été initiée par le préfet de Filingué entre les chefs services hydrauliques et du génie rural, les chefs de quartier. Détail avec le directeur départemental de l'hydraulique Abdoul Salam Mamadou Garba. Il est au micro de Abdoulaye Bagassa.
La cause principale, c'est que la ville a été fondée dans les lits d'Idalel Poussou. Donc, qui dit lit, dit stagnation de l'eau. Et du coup, après une pluviométrie de 10 mm, pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville, il va voir, il va penser que c'est 100 mm, il a plus 100 mm. Ça, c'est un. Et de deux, quand vous essayez de visiter la ville, il n'y a aucun système d'évacuation des eaux pluviales. Des caniveaux le long de la RN25, il n'y a aucun caniveau dans la ville de Filingué. Donc, c'est des problèmes. Et quand vous essayez de voir les différentes cartes de la ville de Filingué, quand vous allez voir les côtes, vous allez voir que tout autour de la ville, les terrains sont en élévation, comme je l'ai dit, du coup, parce que c'est dans un lit. Donc du coup, pour essayer de drainer les eaux pluviales, il faut vraiment des gros moyens. Et je pense que c'est ce qui a toujours un peu découragé les mairies, mais c'est pas une raison. La mairie doit continuer à lutter pour que ces eaux pluviales-là soient évacuées le plus vite possible. Naturellement, le problème d'assainissement se pose. Et qui dit problème d'assainissement dit nuisance liée à ce problème. Ça, c'est un. Et de deux, il y a vraiment les maisons qui se fondent à gauche, à droite. Et de trois, les rues sont obstruées. Pour circuler dans la ville de Filingué, quelque chose qu'on pouvait faire avant dans les 5 minutes, maintenant, il faut vraiment 50 minutes pour faire le même tour.
Un propos recueilli par Abdoulaye Bagassa. Vers la création d'une presse véritablement professionnelle au Niger, les commerciaux des différents organes de presse, les patrons de la presse ainsi que les responsables des associations socio-professionnelles suivent depuis ce matin une formation en management et leadership de la vie associative dans le secteur des médias, une initiative de la Maison de la Presse. Quels sont les objectifs et attentes assignées à cette formation? Réponse avec le formateur Omar Mamman Farouk au micro de Nafissa Adamo Serfo.
À la fin, on souhaite que les participants assimilent les notions de management et de leadership, qu'ils en fassent la différence et qu'ils comprennent leur interrelation, qu'ils soient en mesure d'utiliser les techniques et les voies et moyens qui vont leur être enseignés pour animer leur association dans le sens de créer les meilleures performances en termes de management et en termes aussi de motivation et de création de conditions favorables d'un travail collectif efficient. C'est de les amener à comprendre l'importance du management et du leadership dans l'animation, la gestion et les performances de leur organisation socio-professionnelle.
Propos recueillis par Nafissa Adamou sur Faux. Courte pause, la partie magazine ensuite.
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu.
À Niamey.
Sur la radio alternative.
99.4 FM.
À Zender.
Sur la radio Choukra FM.
105.5 FM.
À Dosso.
Sur la radio Far A.
92 FM.
À Tawa.
Sur la radio Tambara.
107 FM.
À Arlit.
Sur la radio Ikokan.
95.1 FM.
À Agadez.
Sur la radio Nomade FM.
101.9 FM.
À Tilaberi.
Sur la radio Tebouassi.
97.5 FM.
À Maradi.
Sur la radio Garkwa.
107 FM.
À Filengue.
Sur la radio Mouria Talata.
95.1 FM.
À Difa.
Sur la radio Anfani.
100 FM.
Studio Kalangu.
À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, les tailleurs très sollicités peinent à honorer leur engagement pour livrer à temps les nouvelles coutures. La faute n'est pas seulement à l'abondance de la clientèle, mais aux coupures intempestives d'électricité. L'impact sur ces activités et l'économie est important. Reportage à Maradi avec Mohamed Maman.
Je suis venu chercher ma couture. J'ai amené mon tissu depuis plus d'un mois, mais jusqu'à présent, le tailleur n'a pas fini. Il m'avance les raisons de coupure intempestive. Maintenant, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, même si je suis conscient qu'il y a trop de coupures ces derniers temps. Mais il peut acheter au moins 5 groupes. La solution, s'il ne finit pas ma couture, c'est d'aller payer une tenue à la boutique. Visiblement fâché, Mahamad Mahi est contrarié dans son plan de fête. Il craint de ne pas devoir fêter avec les tenues qu'il a prévu de porter. Un petit exemple parmi tant d'autres, car ils seront nombreux ceux qui se retrouvent dans cette situation. Youssouf Fouguidi, un tailleur, explique.
Notre boulot vraiment est perturbé. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas de faux rendez-vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais on essaie de gérer, parce que des fois, on prend pour les petits-enfants, pour toutefois les finir d'avance. Après, on va procéder à chez des femmes, parce que les hommes, aussi, entre nous, on se comprend.
L'impact des coupures d'électricité à Maradi touche également l'économie. De nombreuses personnes sont enregistrées chaque jour avec ces coupures intempestives. C'est le cas du supermarché Maradi Store, où les produits périmés sont fréquemment jetés à la poubelle. Explication avec Ibrahim, le gérant.
Vraiment, c'est très grave. Parce qu'affaire de coupure, là, depuis que ça commence, on a des problèmes. Notre produit qui a besoin de froid quand même dans le frigo, ça ne marche pas. Maintenant, il y a un produit qui se gâte, quel que soit le produit. Vraiment, c'est grave. Il faut qu'on voit ça. C'est pas tout le monde qui a le moyen pour acheter des groupes électrogènes. Même semaine passée, j'ai levé produit de plus de 80 000 comme ça. Avec les pommes, fruits, encore plus de 40-50 000, on a jeté dehors.
Les vendeurs et les réparateurs des groupes électrogènes sont les seuls à se frotter les mains. Leurs chiffres d'affaires sont en forte augmentation. Mohamed Maman depuis Maradi pour le studio Kalangu.
C'est la fin de ce journal. La suite avec Alassane Kouzi Mamadou qui présente ce soir le forum de studio Kalangu.